Mais voici le journal avec Sarah Guibaudot. Bonjour.
Bonjour. Il faudra peut-être attendre l'âge de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein et non plus 62. C'est ce que propose Jean-Paul Delevoye. Le haut commissaire veut fermer les régimes spéciaux et créer un grand système de retraite par points. Jean-Paul Delevoye est en train de donner une conférence de presse.
Nous avons voulu apporter une solution qui, socialement, nous paraît juste, budgétairement et financièrement solide, et qui conforte la liberté de choix de chacun de pouvoir choisir le moment de son départ à la retraite.
Ce qui pourrait changer, explication avec Laurent Kramer. Première réaction syndicale, accueil plutôt favorable de la CFDT alors que la CGT veut mobiliser les salariés contre le projet. Attention, réforme explosive à 8 mois des municipales, comment gérer le calendrier, analyse de Yael Gauze. L'autre grand titre de l'actualité ce midi, c'est la mort de 3 soldats en Guyane. Ils faisaient partie d'un groupe de militaires qui luttent contre l'orpaillage illégal. Ils ont été victimes d'émanations toxiques au fond d'une mine d'or clandestine. 5 autres soldats ont été hospitalisés, Thibault Lefebvre.
Oui, 8 militaires donc, du 19e régiment du génie de Besançon. Et donc, vous l'avez dit, 3 morts. Le sergent-chef Edgar Rollinger avait 27 ans. Le caporal-chef de première classe Cédric Guyot, 31 ans. Et le caporal-chef Michael Vandeville, 30 ans.
On y revient avec vous dans quelques minutes. Une nouvelle alerte sur un perturbateur endocrinien. Depuis 4 ans, le bisphénol S a remplacé le bisphénol A dans beaucoup de plastique, une molécule également suspecte. Dans ce journal près de Tours, la Loire est désormais trop basse pour naviguer, les prix du port s'envolent, le Tour de France à l'assaut des Pyrénées et le ciel se couvre, Sébastien Léas.
Oui, après-midi plutôt nuageux sur la moitié nord avec même quelques gouttes entre le Nord-Pas-de-Calais, la Vendée et le Morbihan. De belles éclaircies vont quand même revenir entre l'Ouest-Bretagne et les côtes de la Manche et puis la moitié sud profitera du soleil cet après-midi. À noter aussi un risque d'averse orageuse sur les Pyrénées, le Mercantour, le relief Corse et les Vosges.
On vous retrouve pour un point complet dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Cela fait longtemps qu'on en parle. Unifier les 42 régimes de retraite, s'inspirer du système par points à la suédoise, c'était aussi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Après 1 an de concertation, le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a présenté ce matin ses recommandations aux partenaires sociaux puis au gouvernement. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Sarah.
Vous êtes au ministère de la Santé où vous assistez à la conférence de presse de Jean-Paul Delevoye. Nous allons détailler avec vous ces propositions. Première question la plus emblématique, l'âge possible de départ à la retraite. 62 ans aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye met en avant un âge d'équilibre à 64 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, eh bien Jean-Paul Delevoye reprend à son compte, pour ainsi dire, ce principe de bonus-malus, de décote et de surcote, avec un âge d'équilibre fixé aujourd'hui à 64 ans. L'objectif est bien d'inciter à travailler plus longtemps, il vient de le dire, de récompenser les efforts, souligne le haut-commissaire. L'inquiétude du gouvernement est en réalité de voir les futurs retraités sortir du système trop tôt, vers 62 ans, y compris avec des petites pensions, et donc de ne plus cotiser pour le régime pour maintenir l'équilibre de ce futur système universel. Une décote et une surcote interviendront donc autour d'un âge pivot, un âge d'équilibre fixé aujourd'hui à 64 ans. Mais comme dans le système actuel, cela veut dire que les salariés qui partiront trop tôt à la retraite subiront une décote fixée à 5% pour chaque année. Partir 2 années avant son âge d'équilibre coûterait donc 10% sur le montant de sa pension de retraite. À l'inverse, partir après l'âge d'équilibre du système fixé aujourd'hui à 64 ans rapportera 5% par année supplémentaire. Le haut commissaire affiche ainsi dans ses simulations des taux de remplacement très élevés, jusqu'à 95% pour des salariés au SMIC qui resteraient 3 années de plus en activité.
Question essentielle aussi, le niveau des retraites en général et en particulier pour les petites retraites, les veuves et les veufs. Qu'y a-t-il sur la table, Laurent ?
Alors Jean-Paul Delevoye assure qu'avec son système de cotisation par points, le montant des petites pensions seront mécaniquement plus élevés que dans le système des retraites actuelles. Les carrières longues échapperont d'ailleurs à ce système de décote et de surcote. Les projections réalisées et affichées aujourd'hui par le haut commissaire pour comparer le montant des retraites selon les deux systèmes montrent des niveaux de pension sensiblement identiques, voire légèrement plus élevés dans l'option du système universel pour réduire les inégalités hommes-femmes. Jean-Paul Delevoye propose une majoration des droits à la retraite de 5% dès le premier enfant. Le couple aura la possibilité également de choisir la répartition de cette majoration. Les pensions de réversion, enfin, ne changeront pas dans le futur système, mais pourront être modulées et départagées entre les différents ayants droit pour les personnes mariées plusieurs fois.
Et Laurent, est-ce qu'on va bien vers un même régime de retraite pour tous ?
Alors cette réforme annonce la fin de 42 régimes de retraite et d'une grande partie des régimes spéciaux. Seuls les fonctionnaires de missions régaliennes garderont des avantages spécifiques. En départ anticipé, notamment les policiers, les militaires, les marins ou les douaniers. Pour les autres, Jean-Paul Delevoye insiste sur l'idée que la solidarité nationale ne devra plus financer les régimes de retraite spécifiques. L'État verse aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros chaque année pour compenser les retraites de la SNCF, de la RATP ou encore d'EDF. Dans ce nouveau système par points, insiste le haut commissaire, les entreprises devront financer les conditions de départ de leurs salariés.
Merci Laurent Kramer du service économique et social de France Inter avec François Rivalant à la technique. Chez les syndicats qui ont eu la primeur de ces propositions ce matin, les réactions divergent selon la ligne de partage habituelle. Sans surprise, la CFDT salue des avancées. Écoutez son secrétaire général Laurent Berger.
À partir du moment où on a un système, en tout cas toutes les projections le montrent, mais on a un système qui va dès la première heure travailler, vous allez pouvoir vous créer du droit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment. Il faut un certain nombre d'heures sur un trimestre pour pouvoir se créer du droit. On sait que malheureusement, nombre de salariés commencent leur carrière professionnelle par des tout petits bouts de contrat. On peut lutter contre ça dans le monde du travail, mais n'empêche que c'est une réalité, y compris pour calculer ses retraites. Quand on sait qu'il y aura des points spécifiques accordés dans des situations particulières de maternité, de chômage, etc., c'est un système, et je crois que personne ne s'y trompera si vraiment chacun le regarde sérieusement, qui peut permettre à ceux qui ont le moins aujourd'hui en retraite d'avoir davantage demain. Donc oui, je crois que c'est un système qui peut être plus redistributif.
La CGT dénonce au contraire beaucoup d'enfumage et des propositions qui ne règlent rien. Le secrétaire général Philippe Martinez.
C'est l'enfumage de M. Delevoye. C'est-à-dire qu'on ne touche pas. Alors, en plus, il y a un âge pivot, il y a un âge légal, plus personne n'y comprend rien. En fait, on ne change pas l'âge légal de 62 ans. Mais si on part à 62 ans, on aura une décote. Ça veut dire que, alors que le niveau des pensions est déjà très bas, on va encore avoir moins si on... Donc, de fait, pour essayer de vivre à peu près, il faudra partir à 64 ans ou 65 ans ou plus. Ça dépend à quel âge on a commencé sa carrière. C'est prendre les gens pour des imbéciles, surtout. Vous voyez, on n'est pas bête, on sait compter.
Force ouvrière, pas d'accord non plus pour passer un système universel et contre le recul de l'âge effectif de départ. Côté patronat, le MEDEF soutiendra les grands principes de cette réforme, même s'il reste beaucoup d'interrogations, selon lui. Ces propositions sont donc sur la table, avec l'objectif d'une mise en place progressive à partir de 2025. Une nouvelle phase de concertation va s'ouvrir avant l'élaboration d'un projet de loi qui pourrait être mis en discussion l'année prochaine. L'année prochaine, il y a aussi des municipales. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Sarah.
C'est une réforme ambitieuse et politiquement explosive et dans la majorité, certains recommandent la prudence.
Oui, c'est aussi la raison pour laquelle le calendrier de la réforme devient très politique. On démine avant les municipales. Le projet de loi n'atterrira au Parlement qu'après les élections de mars 2020. On n'est pas maso, on n'allait quand même pas affaiblir nos candidats en pleine campagne, comme Borloo l'avait fait avec la TVA sociale en 2007, reconnaît en privé un cadre de la majorité. Pas de précipitation donc, il faut que ça infuse, il faut que les Français s'approprie le texte, reconnaît un ministre qui a bien vu les sondages se dégrader. 1 euro cotisé donne les mêmes droits, c'est simple sur le papier, mais le chemin pour y arriver est complexe, explique le député En Marche Sacha Houlier.
Cette réforme est probablement l'une des plus ambitieuses du quinquennat. Elle réforme tout notre modèle social qui en avait besoin puisqu'il s'agit d'en assurer la pérennité. Donc au vu des incidences que ça comporte, au vu de la durée de la mise en œuvre, je pense que on peut prendre encore quelques mois pour en ajuster tous les réglages.
D'ailleurs, même chez les ministres, on a conscience que le chantier est colossal. Pour éviter le vertige, la semaine dernière au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a même ajouté un point débat à l'ordre du jour pour que chaque membre du gouvernement puisse faire partager aux autres sa vision et les conséquences de la réforme dans son secteur. Dans la majorité, on est surtout soulagé de voir que Jean-Paul Delevoye attaque la phase 2 de la réforme en position de force. Lui qui menaçait en avril de démissionner a gagné ses arbitrages face à Bercy. Aucune mesure d'économie nouvelle dans le budget 2020. Il fallait nettoyer la piste pour faire atterrir une réforme qui s'étalera sur 2 quinquennats.
Merci Yael Goz. Oui, cette réforme doit entrer, la transition vers ce nouveau système universel de retraite par points se ferait de manière progressive et pour les personnes nées à partir de 1963. 3 militaires de l'opération Harpie sont morts la nuit dernière alors qu'ils intervenaient sur un site d'orpaillage illégal en Guyane. 8 soldats étaient descendus dans une exploitation d'or souterraine et ont été intoxiqués par des émanations. 5 sont hospitalisés, l'un d'eux dans un état grave. Les 3 victimes sont des militaires du 19e régiment du génie de Besançon. Ils étaient âgés de 27, 30 et 31 ans. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Sarah.
Que s'est-il passé dans le parc amazonien de Guyane?
Eh bien, selon l'état-major des armées et le parquet de Cayenne, les militaires sont morts accidentellement à cause d'une intoxication. Des gendarmes sont sur place et l'enquête est en cours. Il est 16h hier, heure locale, 21h en métropole. Le sergent-chef Edgar Rollinger, le caporal-chef de première classe Cédric Guyot et le caporal-chef Michael Vandeville placent des charges explosives au fond d'une galerie pour détruire un site illégal d'extraction d'or. C'est à ce moment-là que les 3 militaires sont victimes d'émanations toxiques. Très vite, 2 hélicoptères évacuent les corps des 3 hommes. 5 autres soldats du même régiment sont blessés, dont un, vous l'avez dit, dans un état grave. Ils sont actuellement pris en charge au centre hospitalier de Cayenne. Le drame s'est produit à Maripasoula, dans une région très vaste et très reculée du sud-ouest de la Guyane. Il n'y a ni route, ni réseau téléphonique, mais des centaines de puits et de galeries d'orpailleurs clandestins qui peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et c'est ici que depuis plus de 10 ans, l'armée française pilote l'opération Harpie. Un demi-millier de soldats, de gendarmes, de policiers, de douaniers, chargés de lutter en permanence contre l'orpaillage illégal.
Merci Thibault Lefebvre. Carlos Ghosn réclame 15 millions d'euros à Nissan et Mitsubishi pour rupture abusive de son contrat, toujours assigné à résidence à Tokyo. L'ancien PDG a déposé une assignation devant la justice des Pays-Bas où est domiciliée une filiale commune aux deux groupes. Un peu culotté puisque c'est justement via cette filiale qui ressemble à une société écran que Carlos Ghosn est soupçonné de s'être fait verser des rémunérations non déclarées. C'est l'un des studios d'animation les plus connus au Japon qui a été ravagé ce matin par un incendie sans doute d'origine criminelle. 24 personnes sont mortes dans les locaux de Kyoto Animation et des salariés sont encore portés disparus, Yann Rousseau.
Il fait maintenant nuit à Kyoto, mais les pompiers sont encore sur place et le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures au fil de leur progression dans le petit immeuble de 3 étages où Kyoto Animation, on dit ici KyoAni, avait monté un studio mais aussi une partie de son centre de formation. La police est aussi sur place pour l'enquête. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'un homme âgé d'une 40aine d'années serait entré dans les locaux juste avant 10h30. Il aurait hurlé « Vous allez mourir » et il aurait aspergé les bureaux d'essence avant de mettre le feu. Il ne serait lui-même pas décédé dans l'incendie. Il aurait été placé sous la surveillance de la police à l'hôpital où il est traité pour des blessures. Et les enquêteurs disent qu'ils n'ont pas encore pu l'interroger et donc nous n'avons pas pour l'instant d'informations sur l'origine de son différend avec Kyoto Animation. Ce studio n'est pas le plus grand ou le plus emblématique du Japon, mais il est très connu ici pour ses séries télé, ses longs métrages, ses mangas et ses produits dérivés. Et il commençait aussi à connaître un certain succès à l'international, en dehors des fans habituels d'animés japonais. L'an dernier, le groupe avait notamment signé un gros contrat avec Netflix pour faire diffuser dans plusieurs pays sa série Violet Evergarden.
En République démocratique du Congo, le virus Ebola continue sa progression. La fièvre hémorragique a fait près de 1700 morts officiellement depuis un an. Et hier, l'Organisation mondiale de la santé a classé l'épidémie comme urgence sanitaire de portée internationale. Une mesure à double tranchant, Jérémy Lange, car le risque, c'est de voir les pays voisins se barricader.
La découverte d'un cas d'Ebola dans la grande ville de Goma, à la frontière avec le Rwanda, semble avoir convaincu l'OMS. Relever le niveau d'alerte doit permettre aux pays de la région de mieux se préparer à une possible contagion. Mais pas question, dit l'agence, de fermer les frontières. La décision est inutile et même dangereuse, selon le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus.
La fermeture des frontières pourrait avoir des conséquences désastreuses dans la lutte contre Ebola. Cela pousserait les personnes à traverser les frontières de manière informelle, sans être contrôlées, avec le risque que la maladie se propage encore plus. Le temps est venu pour la communauté internationale de se montrer solidaire avec la population de la RDC et pas de lui imposer des mesures punitives et contre-productives qui ne feraient qu'isoler le pays.
L'OMS dément avoir déclaré Ebola urgence de portée mondiale pour récolter des fonds. Il est vrai que l'argent et le personnel manquent cruellement sur le terrain, mais si des pays donateurs ont utilisé jusqu'à présent cette excuse pour ne pas contribuer à la lutte anti-Ebola, a prévenu le patron de l'OMS, alors ils ne pourront plus le faire. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
La militante irakienne Nadia Mourad était hier à la Maison Blanche pour raconter le calvaire des yézidis réduits en esclavage lors de l'offensive du groupe État islamique en 2014. Et vous avez eu le prix Nobel, c'est incroyable, s'est exclamé Donald Trump, qui visiblement ne maîtrisait pas le sujet. En France, vous vous souvenez sans doute de la campagne d'information sur les dangers du bisphénol A. Il y a quelques années, les jeunes parents s'étaient précipités pour changer leur biberon. Cette substance a été interdite dans les biberons donc en 2011, en 2015 dans les canettes et les conserves, et remplacée par le bisphénol S. Le problème, Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
C'est qu'une étude française menée sur des porcelets tend à montrer qu'un bisphénol n'est peut-être pas meilleur que le précédent.
Oui, le bisphénol S, alors il y en a dans le plastique de certains biberons, dans de la vaisselle pour enfants, dans la résine qui recouvre l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve. Il y en a aussi dans les tickets de caisse car il sert de révélateur d'encre. Les chercheurs ont voulu voir les effets sur le corps quand on l'ingère. Pour cela, ils ont mené l'étude sur des porcelets, une espèce très proche de l'homme par son système digestif. Conclusion, eh bien le bisphénol S reste plus longtemps dans le corps que le bisphénol A et à des concentrations plus élevé. Les précisions de Véronique Guérard, professeure à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, co-auteur de l'étude.
On a comparé le devenir dans l'organisme du bisphénol A et du bisphénol S après les avoir administrés par voie orale à la même dose à des porcelets. Et ce qu'on a montré, c'est que la quantité de bisphénol S ingérée par les porcelets qui accédait à la circulation sanguine et donc qui pouvait atteindre les tissus, les organes cibles, était 100 fois supérieure à celle de bisphénol A. Et ensuite, une fois que ces substances sont dans la circulation générale, on a montré que le bisphénol S persiste plus longtemps, 3 à 4 fois plus longtemps.
Autrement dit, en remplaçant le bisphénol A par le bisphénol S, on a augmenté l'exposition du corps humain à un autre perturbateur endocrinien dont on connaît mal aujourd'hui la toxicité.
Merci Sandy Dauphin. Le Premier ministre a voulu rassurer les journalistes hier soir. Pour Édouard Philippe, il n'est plus question d'instaurer un conseil de l'ordre ou de toucher à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. L'actualité média, c'est aussi les très bons résultats d'audience de France Inter qui confortent sa première place en nombre d'auditeurs devant RTL et Énergie. Vous êtes 6,3 millions à nous écouter et merci. Cela représente 11,6% d'audience cumulée et une forte progression pour nous. Suivent France Info, RMC et Europe 1 qui touchent son plus bas niveau historique à 5% d'audience cumulée. Alors que Météo France annonce une nouvelle canicule la semaine prochaine, les conséquences de la sécheresse s'étendent. Le niveau de la Loire est exceptionnellement bas. En Indre-et-Loire, le bateau de promenade le plus populaire est cloué à quai à Roche-Cordon, en Indre-et-Loire. Impossible de maintenir les balades sur le fleuve, se désole le patron Gérard Marchand.
Les moteurs ont besoin quand même, pour être à l'aise, disons 40-45 cm d'eau. Et bien ces 45 cm, on les a par endroits et on les a plus à d'autres endroits. Je n'explique pas, je ne suis pas hydraulicien, je ne suis pas l'autorité de sûreté nucléaire qui règle le refroidissement des centrales. Je ne sais pas, je constate simplement qu'au bout de cette 23e saison touristique, je me suis échoué, ce qui ne m'était jamais arrivé. Voilà, donc j'ai décidé de suspendre pour une période qui peut être longue, hein, cette activité. J'ai une dame, hier, que j'ai eu au téléphone, qui gémissait. Je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez ? Elle dit, mais cette promenade, je la fais chaque année, en famille, je suis tellement désolé, on ne pourra plus jamais. Bah, ça m'a touché. D'année en année, on a quand même le sentiment qu'il y a de moins en moins d'eau.
Propos recueillis par Boris Compin. En Normandie, la baignade est interdite sur les plages d'Étretat, Yport, Le Tilleul et Vatetot-sur-Mer. Mesure de précaution après un incendie qui s'est déclaré la nuit dernière dans la station d'épuration d'Étretat. Les consommateurs s'étonnent ou râlent devant le prix du jambon. Le prix du porc a en effet bondi de près de 25% en 6 mois. La raison, elle se trouve de l'autre côté de la terre. En Asie, la peste porcine fait s'envoler les importations. Pour les éleveurs français, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, Adrien Simon, jeune exploitant du pays de Fougères en Bretagne, n'est pas prêt de s'enrichir, comme il le raconte à Alexandre Frémont.
Eh bien, ce cours très haut lui permet déjà de renflouer ses caisses parce que depuis qu'il s'est lancé dans l'activité, Adrien n'a pas encore réalisé de bénéfices.
Ça fait du bien parce qu'on est en train de gagner notre vie, mais c'est pas pour ça qu'on est. On le joint debout, ça fait plaisir et on est en train de rembourser tout doucement notre trésorerie, quoi. Moi, c'était minimum 1,30€ et j'ai jamais eu 1,30€ pendant mes 4 ans.
Ce chiffre d'1,30€, c'est le prix d'équilibre qu'il s'est fixé, c'est-à-dire qu'en dessous, il perd de l'argent, au-dessus, il en gagne. Ce jour-là, le cours est à 1,536€. C'est donc plus de 20 centimes de bénéfices pour lui.
Et ce sera des investissements sur le bien-être animal, je pense. Parce que maintenant, c'est ce qu'on recherche le plus. Peut-être agrandir les bâtiments, plus d'espace pour animaux, réduire les cages, enfin tout ça.
20 centimes, ça paraît peu comme ça, mais pour 9000 porcs d'environ 100 kilos chacun, vous faites le calcul, les pertes se compensent, mais ça va prendre quand même plusieurs mois selon Adrien. Et puis l'objectif n'est pas non plus de s'offrir par exemple la dernière voiture de luxe.
Pour avoir un confort de travail, c'est pas pour investir dans le plus gros tracteur, pour avoir le plus gros tracteur du voisin quoi. Ou par exemple pour mettre plein les poches quoi.
Après le cours est très haut mais ce n'est pas un record, il avait atteint plus d'1,80€ en 2001.
Quel suspense dans ce Tour de France. Julien Alaphilippe arbore toujours le maillot jaune, mais les Pyrénées vont peut-être rabattre les cartes. Thibaut Pinot, Romain Bardet espèrent grimper au classement général. Bonjour Fanny Lechevestrier, vous avez laissé Toulouse derrière vous et vous êtes sur la route de Bagnères-de-Bigorre.
Et oui, vous l'avez dit, la route qui s'élève progressivement dans ce Tour de France. On va bientôt aborder les premières grosses difficultés de ce Tour, les Pyrénées, avec notamment le col de Peyresourde tout à l'heure. Alors on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est encore dans la plaine de Luchon. On a encore le droit aux champs de tournesol et à beaucoup de végétation. Et actuellement, il y a 40 coureurs qui ont pris la fuite. 40 coureurs qui comptent 3 minutes 15 d'avance sur le peloton, où figure bien sûr toujours le maillot jaune Julien Alaphilippe. Parmi les fuyards du jour, citons Tony Gallopin, les Français, ou encore Lilian Calmejane ou Kevin Le Danois.
Merci Fanny Lechevestrier sur la moto France Inter d'Alexandra Bergel.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Avec Sébastien Léas de Météo France, un ciel couvert.
Avec le passage d'une perturbation, l'après-midi est bien chargé entre les pays de la Loire, l'Île-de-France, la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Cette perturbation est tout de même peu active et les pluies sont rares et épisodiques. Les éclaircies reviennent sur les plages de la Manche et le Finistère, mais entre le Grand Est, le Nord-Bourgogne et le Poitou jusqu'en Gironde, le ciel est plus variable et les nuages prédominent. Plus au sud, l'après-midi se passe sous un soleil généreux. Il faut quand même composer avec quelques nuages en montagne. Ces nuages peuvent aller jusqu'à l'averse et à l'orage sur le Mercantour, l'Est des Pyrénées et le relief de la Corse. Les Vosges ont aussi quelques averses orageuses cet après-midi. Les températures maximales sont comprises entre 20 et 29 degrés sur la moitié ouest, mais il fait plus chaud sur les régions de l'Est avec un mercure grimpant entre 27 et 35 degrés.